Amis de Radio Silence, bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Et je voulais vous souhaiter un excellent mois de septembre. Que ce mois soit vraiment celui, comme on dit ici, des grandes réalisations. Je suis Élise Mbok. Vous écoutez Flash sur le monde depuis Yaoundé au Cameroun. Alors, la première nouvelle, c'est enfin la nouvelle, ce sur quoi j'ai souhaité me pencher un tout petit peu, c'est la mort du Didi Arafat, ce roi du coupé décalé. Je ne vois pas trop c'est quoi, mais bon, on va dire comme ça, on va faire comme tout le monde, dire oui, c'est le roi du coupé décalé, mais moi je vais dire plutôt c'est une idole de la jeunesse perdue en Afrique. La jeunesse africaine perdue, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus de modèle, qui n'a plus de référence, autre que, vous voyez, tout ce qui est spectacle, tout ce qui est distraction, tout ce qui permet de sortir du réel, car la réalité est sordide, terrible, chômage, avenir bouché, et puis on voit toute la parade, vous connaissez le schéma africain maintenant, c'est au-delà du désastre. C'est Didi, donc le grand modèle qui appelait son public la Chine populaire, parce que vous voyez un peu ce genre de concert à la Johnny Hallyday, c'est de la folie d'ailleurs. Il est remarquable, mais ça c'est une façon, comment je vais dire, c'est un euphémisme, de voir que lorsque ce garçon termine sa carrière, c'est la désolation. Les concerts, les salles de concert sont presque vides. Tous ceux qui l'ont soutenu ne le soutiennent plus. Les médias lui tournent le dos. C'est affreux, quoi, de voir cette fin-là. Et après, c'est vrai que quand on compare cela avec toutes les pauses qu'il avait l'habitude de faire avec les têtes de crâne de partout, on est quand même un peu, je vais dire, au bord de la sidération. Et puis, ça nourrit donc toutes les thèses, hein, vous voyez, parce que comment un gars comme ça, qui était une star internationale, mondiale, vous savez, je ne sais pas comment les Didi sont arrivés à être plus stars que les créateurs et les chanteurs authentiques. Comment cela se fait-il que ces gars-là sont toujours en train d'exposer leur amour inconsidéré pour Satan ? L'image, en tout cas. Et comment se fait-il qu'ils finissent toujours un peu leur carrière comme ça dans les égouts, excusez-moi du terme, ou plutôt dans quelque chose, comment le décrire, en fait, c'est indescriptible, c'est ce qui arrive à Michael Jackson, vous voyez, c'est ce qui arrive à Whitney Houston, vous voyez, c'est toujours une descente en enfer, inexplicable, et qui est d'autant plus vertigineuse que l'artiste était vénéré. Bon, donc ce garçon-là, il meurt de façon déjà très suspecte parce qu'il y a une chauffarde, on va appeler comme ça, mauvaise conductrice, c'est une journaliste qui arrive vraiment. Alors là, c'est la mise en scène parfaite pour tuer quelqu'un. C'était le crime organisé, la scène de crime. Vous avez vu des vidéos. La voiture arrive en roulant à 10 à l'heure, et puis de 10 à l'heure, 30 à peine. Et puis bon, lui, il arrive lancé comme une bombe et il percute dessus. C'est la mort assurée. Et bon, on ne va pas commenter ça parce que quand vous voyez cette scène, vous comprenez qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et ces choses-là ont continué parce que on a annoncé la visite de Bill Clinton carrément. Un représentant de l'Union européenne est venu s'incliner devant la tombe du Didi. Mais bon sang, Didi Arafat, c'était quand même la jeunesse africaine et pas européenne. Je vois pas du tout le rapport, comme dirait le président. Fils et Adema au Togo qui avait demandé c'était quoi le rapport alors qu'on lui posait une question embarrassante. Toutes ces artistes, je lui ai dit un aéropage, j'y arrivais là, c'était du délire carrément. Et vous ne pouvez pas comprendre qu'un DJ ait des relations avec l'Union européenne, avec Bill Clinton, avec les présidents de ce monde. Mais c'est quoi cette vie maintenant où les artistes ont pris une importance démesurée, surtout qu'ils sont devenus incapables pour solutionner les problèmes qui se posent en Afrique. Avant, il y avait des artistes indépendants, mais qui, par le chant, par le message, changeaient les choses. Mais ceux-ci, maintenant, ils font que de l'entertainment qui enrichit, on ne sait pas qui, vous savez, c'est toujours les mêmes, qui les propulsent et qui les détruisent, via les médias, bien sûr, qui leur appartiennent, assez epsteiniennes, je vais les appeler comme ça. Et voilà, on est arrivé dans le cirque à continuer. Au moment de l'enterrement, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, le président Ouattara, c'est l'occasion, vous voyez, on récupère même les morts pour donc relancer, lancer sa campagne présidentielle. Et on organise une fête, je vais dire, une orgie nationale, qui se termine par quoi? Internationale, du coup, parce que vu ceux qui sont arrivés. Qui se termine par quoi? Au moment d'aller enterrer le monsieur, ils vont tout seuls, ils écartent le peuple. Mais c'est quoi cette histoire? C'était fatal, le peuple est allé, ils ont profané la tombe, ils ont déterré pour voir si vraiment le gars était là, dedans. Je ne sais pas s'ils ont ouvert le cercueil, parce que ce n'est pas le tout de voir le cercueil, de dire oui, c'est effectivement lui. Rien ne prouve même que c'était lui, finalement. Peut-être qu'il y a des rites qu'il fallait effectué lorsque un membre du collectif meurt, lequel collectif société secrète est invisible. Je veux dire, on est dans une société malsaine qui cultive des valeurs malsaines et c'est terrible. Le deuxième sujet, c'est enfin, la deuxième nouvelle. C'est que 49 anciens chefs d'État africains et chefs de gouvernement vont se réunir prochainement à Addis-Abeba sur, enfin, je sais pas si c'est Thabo Mbeki qui a convoqué cela ou c'est lui qui prend la tête, qui en prend la tête. Et le sujet, très intéressant, ça va être la crise du Cameroun et éventuellement, parce que moi je peux faire mettre éventuellement. Comment demander au chef d'État camerounais de partir du pouvoir? Ah, quand j'entends ça, je me dis bon courage, monsieur, bon courage, parce que la question de la sortie du président camerounais, c'est devenu une question, comment je vais dire, abracadabrantesque, comme dirait le président Chirac, le survivor, hein, ça c'est les gens comme Fidel Castro, des increvables. Le président Chirac, c'était d'autres hommes, ça. Et qu'est-ce que Thabo Mbeki et les membres du gouvernement peuvent faire? Franchement, ils vont discourir, ils peuvent pas aider les Camerounais parce que l'Union africaine en a été incapable. Parce que la communauté internationale, comme on dit, joue à double jeu, c'est-à-dire que elle condamne le président, mais après elle vient le voir pour qu'il donne des marchés, je vais dire une parcelle comme ça de mine d'or à exploiter. Bon, encore heureux, la Chine, elle au moins elle est claire, elle prend son business et puis voilà, elle condamne personne. Les autres, ils font du business et ils font semblant de condamner le président, bon, qui en rigole parce que ce sont ses obligés finalement. Et donc la communauté internationale ne peut rien faire, l'Union africaine ne peut rien faire, les anciens chefs d'État ne pourront pas faire plus que cela. Parce que la question qui se pose au Cameroun aujourd'hui, on est au-delà de la morale ou en deçà de la morale? Bon, voilà, un système verrouillé comme celui-ci n'obéit pas à l'éthique, à la morale. L'équation est simple. Monsieur Biya sait que s'il quitte le pouvoir, il ira en prison. La prochaine case, station, c'est la prison. Et plus que la prison, ça peut être autre chose, peut-être même la peine de mort. Encore qu'à cet âge-là, ça ne sert à rien. Donc, il ne veut pas aller en prison, ni lui, ni son clan, ni son gouvernement, ni tous les gens qu'il a nommés depuis tout ce temps-là et qui sont complices de son complice, ou plutôt, je ne vais pas dire complice, ils sont co-responsables de sa gestion qu'on dit calamiteuse. Donc pour lui, c'est une question de survie. C'est soit il reste au pouvoir et il meurt, soit il n'est plus là et de toute façon, il va mourir dans des conditions atroces. Donc autant verrouiller tout et rester là. Comment le sortir? On ne peut pas. Constitutionnellement, c'est s'attaquer à la souveraineté du Cameroun. Le peuple est verrouillé, mais verrouillé, il est menotté, mais en même temps, il est menotté parce que le pouvoir ne rigole pas, au point, vous savez, des gens qui jouent pour leur survie, ils sont prêts à éliminer tout le peuple, d'ailleurs. La crise du Nosso, là, comme on dit, du nord-ouest, sud-ouest, où les anglophones sont en train de s'entretuer, démontre très bien jusqu'où ce gouvernement peut aller. S'il faut arroser tout le peuple camerounais qui va aller à la rue, le peuple sera arrosé. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont jetés en prison systématiquement, sans pitié et sans ménagement, et les procès sont ce qu'ils sont. Je ne vais pas parler de la justice parce que ça, c'est une autre histoire. Et de toute façon, la justice, dans la tradition française, n'a jamais été indépendante du pouvoir. Que voulez-vous? On ne peut rien faire. Il se trouve donc que qui peut aider à solutionner ce problème? Ben personne. Personne, parce que entre-temps, le Cameroun a réussi ce qui se fait que les colons faisaient. Il a divisé les gens, il a inculqué la haine de l'autre, le non-respect de l'autre, la jalousie. Les Camerounais se jalousent entre eux, ils ne se respectent pas, ils se bloquent entre eux, ils sont anti-productifs à tous les niveaux et ils sont même contre le développement. Vous allez dans les campagnes, c'est pire. Moi, j'ai fait une expérience là, très malheureuse, vous savez, où je me rends compte qu'il y a des gangs locaux. Mais parce que dès lors qu'il n'y a plus de tête, voilà, de tête où il y a une moindre éthique, où la loi existe, le Cameroun est un pays sans foi ni loi. Chaque personne qui peut constituer sa milice et son gang quelque part, ben, elle gère et les autorités regardent cela, impuissantes ou parfois participantes, y compris au niveau local. Et localement même encore, c'est terrible. Vous connaissez la mentalité villageoise. Vous avez deux choses ici. Vous avez Eneo, le groupe d'électricité. Vous avez un bail. Il ne vous donne pas l'électricité parce que c'est votre propriétaire qui doit décider. Vous dépendez de votre propriétaire corps et âme. Il peut donc, pour une question de loyer, vous couper l'énergie, des choses qui n'ont rien à voir parce que ce n'est pas lui, le propriétaire, qui perçoit la facture d'électricité, c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, on fait tout ça exprès pour entretenir un gang. Alors vous avez que Eneo, c'est un grand truc, mais qui délègue ses fonctions à des têtes de réseau, lesquelles têtes de réseau distribuent en fait l'énergie dans le quartier, en sorte que Eneo est pratiquement incapable de savoir quel est le volume d'électricité dont il a besoin et qu'il doit fournir. Vous avez cela, mais ce n'est pas qu'Eneo qui le fait. Vous regardez les brasseries du Cameroun, maintenant pour être, comment ils appellent ça, dépôt, vous créez un dépôt, vous savez, c'est vous qui prenez le relais là-bas où vous êtes. Mais avant, c'était une activité libre. Les brasseries venaient et livraient à tous les dépôts. Maintenant, vous avez un dépôt qui va prendre le monopole de l'affaire et redistribuer aux autres. Donc, c'est toujours du gangstérisme qui est mis en place, monopole de tous les secteurs. Et puis après, on ne peut pas faire de concurrence. C'est la même logique qui existe, anticoncurrentielle, monopole de tout et de rien. Ça finit par le gangstérisme institutionnel, et je vous assure, c'est lamentable. Là-dessus, vous avez Maudit, l'agence Maudit, parce que quand je dis Maudit, ça fait un peu comme si elle était maudite. Bon, les agences de notation, vous savez très bien, sont à l'origine de la crise de 2018 parce qu'elles ont établi toutes des fake notations. Et en disant celui-là était bien et finalement c'était pas bien, c'est bon, bref, vous connaissez l'histoire, notamment avec les subprimes. Là, nous avons cette agence qui a dit, ah, mais vous savez, pour soutenir le Cameroun, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui pour aider personne, même les agences de notation s'y mêlent et disent que non, il y a trois pays qui sont équipés en Afrique, je crois le Rwanda, le Cameroun, j'ai oublié l'autre, ou l'Afrique du Sud, je sais plus, tenir le choc d'une éventuelle crise financière. Pouf, mon œil. qu'est-ce que c'est que ces conneries? La raison, je sais plus ce qu'on avance. Mais elle est complètement fausse en ce qui concerne le Cameroun, parce que le Cameroun n'a pas une économie normale. Quand je dis normale, c'est-à-dire que vous n'avez pas un régime de sous-traitance affirmé, vous n'avez pas une politique d'emploi, vous n'avez pas une politique, voilà, les logements sociaux, il n'y en a pas. On a délégué, en parlant des zones de monopole, on a délégué ce monopole-là à ceux qui ont de l'argent. Il se trouve que ce sont des bamiléké, et ils ont construit des immeubles, on ne sait pas comment, les immeubles ont poussé comme des champignons dans les grandes villes du Cameroun, notamment Douala et Yaoundé, et ils ont le monopole du logement social que l'État leur a abandonné volontairement, sans ce qui se passe comme en France, sans les aides au logement, sans... Un cahier des charges sur déjà le type de logement fourni, c'est du n'importe quoi, sur l'entretien, sur les droits du bailleur. Le bailleur, en fait, il n'a rien à faire, il n'a que des droits, en fait, il n'a aucun devoir. Il n'a que des droits, droits de tout, devoir zéro. Il n'entretient rien, la plomberie, c'est vous, la peinture qui se décolle, c'est des trucs construits n'importe comment, l'eau c'est lui qui fournit s'il veut, s'il veut il fournit pas, l'électricité je vous en ai déjà parlé. Donc cet abandon systématique de toutes les prérogatives de l'État fait qu'il n'y a pas d'économie. Quelle économie sans logement social, sans politique sociale? Quelle économie sans politique sanitaire, hospitalière? On parle beaucoup, hein. Quelle économie sans politique industrielle? Quelle économie sans politique agricole? L'agriculture est vendue et bradée comme cela au Bolloré et consorts et à la Chine maintenant qui viennent, qui achètent des hectares et des hectares de terrain et cultivent et exportent. Le paysan, il est là, il regarde. Mais vous me direz aussi, c'est bien fait pour ce paysan haineux. Je vais vous dire, hein, aujourd'hui, en Afrique, dans les campagnes, on se dispute à mort parce qu'on veut cultiver le cacao. La terre est devenue un objet d'affrontement entre les familles et les autorités sont là et regardent ça. Si vous n'allez pas payer pour que l'autorité se déplace pour venir éventuellement juger, vous donner raison, je ne sais pas, c'est quoi ça? Les autorités ne regardent rien, les populations s'entretuent, c'est la loi du plus fort, le plus gangster, il arrache le terrain à tous les autres, il n'y a pas de titre foncier, donc c'est la guerre. Et d'un pays pas géré du tout, comment maudit peut venir de loin dire que le pays peut résister à un choc? Mais le pays n'a pas d'économie, c'est du vide. Et c'est une économie, c'est même pas virtuel, c'est imaginaire. Vous avez chacun qui fait son petit commerce dans son coin. Et effectivement, il n'est pas impacté si l'autre s'écroule. Il n'est pas. Vous avez la friperie qui est arrivée, qui étouffe tout ce qui peut être création de mode, qui étouffe tout cela, et le balai, on importe tous les déchets qui sont vendus ailleurs et qui arrivent, et c'est l'État qui finance cela. Ça donne des vêtements de partout, partout, tout le monde est devenu un petit vendeur, revendeur. Voyez un peu, ça, c'est l'avenir des gars ici. Le chômage, comment on fait des jeunes, c'est cervelant, c'est pour cela qu'ils viennent là-bas. Maudit ne peut pas venir donner ce genre de notes. Je vais dire, c'est des notes fantaisistes. Mais c'est très grave parce que ça entérine les faits accomplis et l'état de nullité et de... Oh, franchement. Je sais pas, j'ai bien envie de dire des choses positives, parce que là, ce que je vous dis, je pourrais vous dire plus. C'est du sordide. Vous êtes dans les campagnes, aucune route goudronnée. Dès qu'il pleut, c'est la boue dans les centres-villes. On appelle ça là, des campagnes. Les routes impraticables, ça glisse. Quand je veux dire, vous avez peur pour votre vie. Vous avez... Oh, quel développement, quel développement. Et maudit vient, il met une note. Quelle note, quelle note. Ces notes-là. Bon, laissons tomber. On ne va pas insister, laissons tomber parce qu'après, on va s'énerver. Donc, voilà ce qu'il y a de nouveau ici d'essentiel et d'essentiel parce que Biya ne partira pas. Il faudrait la mort pour qu'il parte, mais ça, c'est pas dans l'ordre du jour. On ne souhaite jamais la mort à quelqu'un, même pas son pire ennemi. Il faut pas. Le Cameroun va faire quoi? Il est vrai, l'Afrique est placée là devant une impasse, c'est un dilemme. Ce sont nous-mêmes qui avions demandé, nous les Africains, de ne plus se mêler des choses de l'Afrique, de ne plus faire le tribunal pénal international. Bon, le tribunal pénal, ça c'était une farce parce qu'il n'y avait pas les Bush là-bas, les Obama, les grands criminels, les Clinton, sauf les Africains. Mais en nous érigeant contre l'ingérence étrangère, qu'on appelle ingérence, nous nous sommes condamnés nous-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, on ne voit pas comment, la communauté internationale aussi, elle a beau jeu, hein, parce qu'entre-temps, elle fait son business, son marché. On ne voit pas qui peut venir aider à solutionner le problème. Et de l'autre côté, l'Union africaine elle-même ne s'est pas donné les moyens pour contraindre un chef d'État à partir. Et là, on se dit que sans convergence politique, effectivement, l'Union africaine n'a pas la main. Et si une Union africaine peut se construire demain, il faudrait déjà qu'elle commence à regarder à ces histoires de convergence politique. Et donc, une chose est bien de dire oui, non, l'ingérence, mais l'autre est de dire ok, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper sur le mec qui veut changer la constitution et se représenter ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour exiger le départ d'un président qui a donc enfreint dans toutes ces normes qui seront établies pour la gouvernance? Et il n'y a pas tout cela. Et parce qu'il n'y a pas de convergence politique, d'outils de convergence, étant donné que l'Union africaine, c'est vraiment juste comme ça, une coquille vide, parce qu'il n'y a pas ça, il n'est pas possible d'avoir des sanctions. Pour qu'il y ait des sanctions, il faut déjà un cadre de référence. Il n'y en a pas. L'Afrique travaille comme ça un peu. Alors moi, je vais voir Modi qui va donner une grande note là-bas. Mais l'Afrique part. Elle est tout, l'Union africaine, sauf un bloc des réflexions. Vous avez par exemple cette CDAO qui est là, qui vient de créer sa monnaie qui s'appelle l'ECO. L'autre côté, la même monnaie s'appellera France CFA. Je veux dire, tout ce fonctionnement disparate et disloqué fait que l'Union africaine n'existe pas, en fait, ni politiquement, ni économiquement, ni financièrement, ni stratégiquement, ni à tous les niveaux, ni culturellement. Vous avez l'Europe à, j'ai oublié comment on appelle ce plan-là, qui permet aux étudiants de se déplacer. Je suis loin, là, en Afrique. Il y a un truc qui vous guette beaucoup, c'est le lessivage intellectuel. Vous avez de la mémoire ici, il n'y a pas de vie culturelle. Ouf, on est dans la médiocrité permanente, on est dans le brouhaha. Voilà, le bruit, ça commence du matin jusqu'au soir parce qu'il n'y a pas eu de planification urbaine. Une église se trouve dans le quartier, ça braille. Les murs ne sont pas insonorisés. Les bars, c'est pareil, on fait ce qu'on veut. Si on a pitié de vous, on baisse le son. Si on n'a pas pitié, on prend les baffles, on installe dehors alors qu'ils doivent être à l'intérieur. Rien n'est réglementé. Les monopoles partout, le non-respect partout, le je m'en foutisme partout. Et dans ce climat de non-cohésion sociale, de dislocation des forces soi-disant économiques, moi je vais dire affairistes, que peut l'Union africaine? Rien. Que pourront faire le club des 49 qui se réunit à Addis Abeba prochainement, puisqu'on a commencé par là? Franchement, j'ai envie de dire rien, mais sait-on jamais. Bien, vous avez écouté Flash sur le monde. C'était Elise Bock pour Radio Silence. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Thank you.